autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs. Avec Hugo Violas à la réalisation, à la découverte d'un monde infinitésimal, encore très mal connu et pour cause. Il est invisible à l'œil nu et pourtant essentiel, omniprésent partout, à l'intérieur de nous, sur notre peau, dans notre corps, mais aussi dans tout notre environnement, sur terre, sur mer et jusque dans l'espace. C'est le monde microbien, fait de vie minuscule, unicellulaire, bactéries, algues, virus, protistes. Comment porter un autre regard sur cette extraordinaire microbiodiversité qui nous entoure et dont nous commençons seulement à évaluer l'étendue. Les micro-organismes, les microbes ne sont pas seulement un problème, ils sont aussi, dans leur incroyable diversité, dans leur extraordinaire beauté, porteurs de solutions et de pistes de bio-innovation. Voilà ce que nous allons découvrir avec nos invités, les biologistes Catherine Jessu et Laurent Palca, auteurs respectivement des vies minuscules d'Édouard Chaton aux éditions du CNRS et du peuple microbien aux éditions Quae. Autour de la question jusqu'où nous entraînera précisément le peuple microbien et ses plus étonnants représentants, bienvenue dans une autre dimension.
Quand j'ai découvert les protistes, ça a été pour moi comme une révélation parce que c'était des entités microscopiques qui ne rentraient pas dans les cases classiques de l'animal ou du végétal dans lesquelles on avait jusque-là rangé beaucoup des éléments vivants. Qu'est-ce que vous, ça vous inspire, les protistes, en termes de remise en perspective de la classification du vivant ?
Alors avant de tout remettre en question, hein, comme nous y invite la virologue et blogueuse Tania Louis, nous allons d'abord faire connaissance avec ces fascinants, magnifiques, microscopiques protistes. Grâce à vous, Catherine Jessu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous en studio. Vous êtes biologiste, directrice de recherche au CNRS, où vous avez dirigé l'Institut des sciences biologiques du CNRS, ainsi que le laboratoire de biologie du développement de Sorbonne Université. Vous avez déjà publié aux éditions du CNRS un ouvrage collectif, hein, sous votre direction, Étonnants vivants. Et parmi ces étonnants vivants, il y a les protistes, que vous nous faites découvrir dans ce nouvel ouvrage fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot, les vies minuscules d'Édouard Chaton. Co-écrit Catherine avec Vincent Laudet, professeur de biologie marine à l'Institut d'Okinawa au Japon. Vincent Laudet qui a aussi dirigé la station marine de Banyuls-sur-Mer, comme Édouard Chaton. Ce formidable chercheur pionnier, le premier à avoir étudié et dessiner ces protistes. Donc des êtres unicellulaires, fascinants, colorés, capables de se métamorphoser, présents dans tous les milieux, que l'on découvre donc sur ces planches et dans ce livre à la fois scientifique et artistique, Les vies minuscules d'Édouard Chaton. Comment êtes-vous tombé sur ces vies minuscules, sur ces protistes passionnément étudiés par Chaton, Catherine Jessu? Parce que je précise, vous n'êtes pas microbiologiste, vous êtes biologiste.
Absolument. J'ai fait connaissance avec les protistes d'Édouard Chaton, non pas par la science, mais au hasard en fait d'une visite au laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, qui est une station de marine qui dépend de Sorbonne Université et du CNRS. Et Vincent Laudet, le co-auteur, m'a entraîné dans les archives du laboratoire où on a découvert, enfin lui les connaissait déjà, de très grandes planches murales de 1m60 sur 1m10, donc des grands tableaux de papier cartonné, complètement riches de multiples dessins qui, à première vue, m'ont paru extrêmement mystérieux, mais très beaux, très colorés, sur fond noir, ocre, qui avait été dessiné donc par le professeur Édouard Chaton il y a de cela une centaine d'années, dans les années 1920. Il était professeur et utilisait en fait ces tableaux qu'il dessinait lui-même comme support d'illustration pour les cours qu'il délivrait en amphithéâtre à ses étudiants de licence.
Et ça a vraiment été un pionnier. On peut même pas, enfin, décrire ces planches est compliqué, c'est des vraies œuvres d'art, hein. On voit des espèces de, je sais même pas comment le décrire, des films. filaments rangés, oui. des couleurs. Enfin, c'est, oui. C'est vraiment des œuvres d'art oui. à chaque fois, mais des œuvres d'art scientifiques.
C'est des œuvres d'art, oui, scientifiques. Visiblement, Édouard Chaton, on le sait, était quelqu'un qui était passionné par la peinture, qui était d'ailleurs un de ses hobbies. Et en fait, la particularité de ses dessins, c'est que ce n'est pas vraiment des dessins scientifiques au sens où ils ne sont pas réalisés pour figurer dans des articles à partager avec ses collègues. Donc, ils sont relativement simplifiés, puisque c'est pour expliquer à ses étudiants la vie de ces êtres unicellulaires que lui-même étudiait. Donc, c'est des dessins qui sont finalement simplifiés par rapport à des vrais dessins scientifiques et qui sont extrêmement colorés, contrairement aux dessins qui étaient dans les publications de l'époque et qui étaient en noir et blanc, pour mettre en relief telle ou telle structure. Donc, ils sont assez furieusement beaux, effectivement. Et ça correspond ni à de l'art, ni à de la science, même s'il y a une exactitude et une rigueur scientifique implacable dans la représentation qu'il a fait de ces êtres qui apparaissent très très mystérieux.
Ah, qui sur sont ces très mystérieux et qui planches. Sont en gros ni bactéries, ni virus, enfin voilà. des êtres unicellulaires, on va y revenir. Autour de la question jusqu'où nous entraîneront justement les protistes. Les protistes sont aussi votre spécialité, Laurent Palca, bonjour.
Oui, bonjour, merci de l'invitation.
Ah, merci à vous d'être en ligne avec nous depuis chez vous. Distanciation oblige, nous n'avons droit d'accueillir qu'un invité à la fois en studio. Vous êtes Laurent Palca, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur les protistes. Aujourd'hui, vous menez vos recherches plutôt sur les mycorhizes, les champignons, micro-organismes associés aux plantes, on y reviendra. Vous êtes membre du CESCO, le Centre d'écologie des sciences de la conservation. Vous avez dirigé aux éditions matériologiques un ouvrage de référence, un microbiodiversité, un nouveau regard. Et vous venez de publier, Laurent Palca, aux éditions Quai, dans la collection Carnet de sciences, Le peuple microbien, dont nous sommes inspirés pour donner le titre à cette émission. Le peuple microbien, c'est une sorte de manuel naturaliste sur la piste alors, de tous ces virus, bactéries, protistes, cilées, amibes, dans lequel vous nous faites découvrir à la fois l'étendue de nos connaissances, mais aussi notre ignorance, hein, franchement, sur ces micro-organismes présents partout, mais invisibles. J'ai envie de vous demander, Laurent Palca, lesquels vous fascinent le plus ? Est-ce que ce sont ces superbes protistes chers à Édouard Chaton, vos champignons en symbiose avec des plantes ? Qu'est-ce qui, dans ce fantastique peuple microbien, vous intrigue le plus ?
Eh bien, moi, ce qui me fascine, c'est la découverte. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très heureux de faire de la recherche scientifique. C'est la découverte et le monde microbien, le peuple microbien, c'est un univers de découverte qui n'arrête pas de se poursuivre, d'avancer. On en découvre tout le temps. En particulier à travers les nouveaux outils. Hein. On a des outils qui nous permettent de séquencer des génomes. Alors là, on va se mettre à découvrir des espèces, des taxons qu'on était connus ou inconnus. Et on arrive à travailler sur des quantités d'échantillons, à des niveaux extrêmement à grande échelle. Voilà. Donc selon les instruments qu'on va utiliser, que ce soit le microscope optique, le microscope électronique, les différents microscopes, mais également la biologie moléculaire, alors on va découvrir des mondes insoupçonnés. Voilà.
Des mondes vraiment insoupçonnés. Hein. Vous avez raison de le dire, parce que on n'imagine pas qu'il y a autant, enfin une telle diversité, biodiversité. C'est la biodiversité maximale hein, chez les unicellulaires et dans ce peuple microbien. On va peut-être répondre à la toute première question qui avait été soulevée par la youtubeuse et virologue Tania Louis. Est-ce que les protistes, donc on a commencé à parler, qui fascinent tant, qui ont tant fasciné Édouard Chaton, est-ce que ce sont des êtres à part? Parce que comment les classer? Alors, je ne sais pas. Allez-y, Catherine Jessu.
Ce ne sont pas des êtres à part. Effectivement, ce qui a fasciné Édouard Chaton en 1902, c'est de mettre une goutte d'eau de mer à Roscoff sous son microscope et de voir que ça pullulait d'êtres qui étaient très divers les uns des autres. Donc il y a là effectivement tout un monde, tout un peuple. Et ce qui a aussi beaucoup fasciné Édouard Chaton, il a fait beaucoup de choses dans sa courte vie, c'est de s'apercevoir que ces êtres n'étaient pas à part, qu'ils avaient leur place entière dans le monde vivant. Donc les protistes sont des unicellulaires qui sont dotés d'un noyau. contrairement aux bactéries ou aux archées, ou même aux virus qui ne sont pas des cellules, en fait. Donc voilà, c'est une catégorie du monde microbien, du monde microscopique, sont les protistes. Ils sont dotés d'une organisation intracellulaire particulière, mais ils ont toute leur place, et même, c'est un objet d'étude extrêmement important à l'époque de Chaton, pour Chaton, mais maintenant, actuellement, pour comprendre l'arbre du vivant, nos origines, quelle est l'origine de la... À quoi ressemblait la première cellule qui est apparue sur la Terre il y a 3,7 milliards d'années. Les protistes sont apparus bien après, les bactéries, mais ils en dérivent. C'est probablement une association entre une bactérie et une archée qui crée la première cellule dotée d'un noyau, donc le premier protiste. Et c'est ensuite cet arbre bourgeonnant de filiation, de qui descend de qui crée qui au cours de l'évolution, qui fait qu'on a abouti à un certain moment à des êtres multicellulaires. Donc les unicellulaires et les protistes en particulier sont complètement ancrés dans cette grande histoire du vivant qui parcourt notre planète depuis près de 4 milliards d'années. Et c'est également une source, enfin ils sont également bien ancrés dans les fonctionnements de nos cellules. Mm-hmm. C'est-à-dire que nos cellules fonctionnent avec le même équipement, en quelque sorte, et à la différence près que, étant unicellulaire, c'est une même cellule qui, au cours de sa vie, fait toutes les fonctions, que nous, dans un organisme, ces fonctions sont réparties entre différentes cellules spécialisées.
Donc extrêmement intéressant d'étudier cet immense peuple microbien. Est-ce que, pour en rester pour le moment sur les protistes, est-ce qu'on les trouve dans l'eau, vous parlez de l'eau de mer, mais pas seulement, Laurent Palka, on les trouve partout?
Oui, on les trouve partout, mais je voudrais juste
compléter, bien sûr.
En revenant sur Édouard Chaton.
Oui.
Je trouve qu'Édouard Chaton, il a fait quelque chose d'extraordinaire, parce que quand il s'est mis à distinguer les micro-organismes qui possédaient où le génome était à l'intérieur, contenu dans un noyau, et ceux où le génome n'était pas contenu dans un noyau, mm-hmm. il s'est mis à proposer deux termes, eucaryotes, e qui veut dire vrai, caryotes qui veut dire noyau, donc qui ont des noyaux vrais, et les autres qui n'ont pas de noyau vrai, ils ont un nucléoïde, c'est-à-dire de l'ADN qui est lié à des protéines, ce sont les bactéries. Il les appelait les prokaryotes. Il a distingué eucaryotes et prokaryotes, et à partir de là, ça a fait consensus, et on a introduit dans eucaryotes non seulement les protistes de Chaton, mm-hmm. mais également les animaux, les plantes
et
les champignons. Voilà. Et après, on est arrivé à deux catégories, les eucaryotes, avec tout le monde du vivant où les cellules possèdent un noyau, mm-hmm. et puis les bactéries.
Visionnaire et pionnier, Édouard Chaton, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je veux rebondir sur ce que vient de dire Laurent, qui est tout à fait exact. Effectivement, Laurent, Édouard Chaton a posé en fait un cadre conceptuel à toute la biologie sur lequel nous nous reposons toujours. Mais je vais rectifier un peu, j'ai lu la publication originale de 1925 qui pose, de Chaton posant ces deux grandes catégories du vivant.
Dont on sert toujours aujourd'hui, eucaryotes et prokaryotes.
Oui, deux grandes catégories du vivant. Il avait déjà englobé les êtres multicellulaires dans la catégorie des eucaryotes. Il n'avait pas simplement considéré les protistes comme eucaryotes. C'est une erreur qui est souvent faite quand on parle de lui. On dit, voilà, eucaryotes, Chaton avait vu, il y avait les protistes et puis les bactéries. Non, il avait, dans la planche 2 de cet article, il avait déjà introduit comme eucaryotes les êtres multicellulaires. Mmh. Et j'en profite pour en donner une petite anecdote. Cette publication, elle est extraordinaire parce que Chaton va donner vraiment un cadre à la biologie avec ces deux catégories. Mmh. En fait, c'est un article qui est consacré à une amibe Pans Porella perplexa, qu'il a pêché, qu'il a recueilli, oui, et qu'il l'a laissé perplexe, qu'il avait été échantillonné dans l'aquarium dans le bassin des crocodiles du muséum de Paris. Et il n'arrive pas à la placer dans sa classification. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il l'appelle perplexa. Ça, il y a 80 pages où il parle de Pans Porella perplexa en disant ça ressemble à ceci, mais à cela, mais ça. Et à partir de cette petite amibe, il dessine un arbre géant du vivant avec eucaryotes, y compris multicellulaires et procaryotes. Et ça, c'est une capacité rare chez un chercheur de tirer d'observations hyper pointues une vision avec une cohérence géante sur le monde vivant.
Et il était tout à fait exceptionnel. Le visionnaire Édouard Chaton, à lire donc Les Vies Minuscules, paru chez CNRS Éditions, dans lequel on voit ces planches extraordinaires de procaryotes.
Deux caryotes,
ça y est. Voilà, c'est ça. Merci de me corriger. Alors, c'est dans les océans, donc, on a bien compris que Édouard Chaton a commencé par les découvrir. Aujourd'hui, il y a de nombreuses expéditions scientifiques qui dans les océans, notamment celles menées par les chercheurs navigateurs de Tara Océan, qui ont collecté, dans tous les océans du monde, des richesses insoupçonnées que l'on commence tout juste à étudier avec un tas de découvertes, de surprises inattendues. C'est tout de suite l'éclairage d'un autre microbiologiste, Denis Allemand de l'IFREMER, qui dirige le centre scientifique de Monaco, spécialiste de la physiologie comparée des organismes marins. Il se régale avec tous les échantillons de micro-organismes marins prélevés lors de ses récentes expéditions.
Il y a eu Tara Océan, qui a été une fabuleuse aventure. Normalement, actuellement, on connaît dans les océans à peu près 300 000 espèces d'organismes vivants, plantes, animaux. Tara Océan a permis de découvrir 500 000 espèces de protistes, enfin d'unicellulaires, pas d'unicellulaires au sens large. C'est énorme. Et ça a été fait juste dans les traversées qui ont été faites. Donc vous imaginez si on... Ça a été fait que la surface en plus, les 20 premiers mètres. Donc vous imaginez l'énorme quantité de diversité unicellulaire qui reste encore à découvrir. C'est absolument phénoménal. Cette diversité unicellulaire, elle est énorme parce que vous avez tous les modes de fonctionnement, tous les modes de reproduction asexuée. Nous, on a deux sexes, sexe appelé mâle, sexe femelle. Il y a certains unicellulaires qui ont 12 sexes différents, des combinaisons à n'en plus finir. La diversité, en fait, elle est dans la vie unicellulaire. Elle n'est pas dans la vie multicellulaire. Ça représente qu'une petite partie, finalement, de la vie. Mais cette diversité, elle est phénoménale dans le milieu unicellulaire.
Laurent Palka, vous voulez réagir, j'imagine, à cet éclairage de Denis Allemand sur la biodiversité qui, finalement, est dans la vie unicellulaire, hein, bien plus que dans nos vies multicellulaires.
Oui, tout à fait. Mais pour rebondir sur Tara, Tara a permis, l'expédition Tara Océan a permis de faire l'inventaire au niveau de la planète. Tout à l'heure, je disais que grâce au séquençage massif et à tous les outils, il y a aussi il n'y a pas que le séquençage, il y a tout les illustrations, l'observation qu'on peut faire avec le microscope, les dosages, les analyses. Tara a permis de faire l'inventaire au niveau de la planète d'une multitude de taxons au niveau des espèces et des genres à différents niveaux, de micro-organismes et de leurs virus, et aussi un inventaire des fonctions écologiques dans l'écosystème océanique, comme la fixation de l'azote atmosphérique ou la pompe à carbone biologique, et d'interaction entre les micro-organismes et leurs virus, quelquefois sans jamais les avoir vus. C'est quand même extraordinaire. On sait qu'on a des micro-organismes qui sont là, on sait leur donner une identité, même si on ne leur donne pas forcément un nom, on leur donne une identité, et on sait même qu'ils interagissent. Ça, c'est fantastique, sans forcément les avoir vus. Donc, on a tout un monde qui est connu dans les océans et également dans les sols, et tout un monde qui est inconnu et qui reste à découvrir.
Un monde qui reste à découvrir et qui pourrait nous apporter énormément de choses, notamment aujourd'hui, on y pense, vous avez parlé des virus, en termes de connaissance, on va y revenir aussi, parce que tous ces microbes, entre guillemets, sont loin d'être néfastes, et ils nous permettraient d'élargir notre connaissance, hein, puisqu'il y a énormément de choses que l'on ne connaît pas à ce sujet. Justement, nouvelle question pour vous, soulevée par un autre éminent chercheur, Olivier Schwartz, qui lui est virologue, à l'Institut Pasteur, où il dirige l'unité virus et immunité. Je vous propose de l'écouter.
Oui, j'avais une question sur les protistes pour Catherine Jésus. Quels sont les virus qui infectent les protistes et quels sont les plus gros ennemis des protistes?
Alors Catherine Jésus, est-ce que vous savez répondre ou est-ce que je m'adresse à Laurent Palga?
Déjà, je vais répondre d'une manière générale. Effectivement, les protistes sont des cellules eucaryotes. Et donc, dans ce sens, ils peuvent être parasités. Par des virus, par des bactéries et par d'autres protistes d'ailleurs, parce que parmi ces protistes, il y a des protistes qui sont, on les connaît bien, hein, qui sont des grands pathogènes. Le premier prix Nobel c'était celui de Laveran en 1907, je pense, qui découvre l'agent du paludisme. Et ça, c'est une première. Ça n'est pas une bactérie ni un virus, c'est un protiste, hein, le plasmodium. Donc, c'est que Édouard Chaton a également étudié. Donc, les protistes sont des parasites et ils peuvent être parasités par d'autres protistes, qu'a montré également Édouard Chaton. Donc, il y a effectivement, ça renvoie au fait, là, on est dans le parasitisme,
oui.
Mais c'est que le monde vivant, c'est une grande collectivité, c'est des écosystèmes où on est tous liés les uns aux autres et où les protistes sont en équilibre, comme nous, tous les êtres vivants sur la Terre, avec leurs autres communautés et peuvent être effectivement infectés par des virus, il n'y a pas de problème, ou par des bactéries, ou par d'autres...
Et est-ce que, Laurent Palga, on peut apprendre quelque chose, nous, puisque nous aussi sommes infectés par des virus, pour le meilleur parfois, hein, nous, mammifères, avons un placenta et ne pondons plus d'œufs grâce à un virus qui nous a autrefois touchés. Mais est-ce qu'on pourrait apprendre des choses, des stratégies de tout ce peuple microbien qui Bien comprend sûr. Aussi, même si c'est un peu compliqué de mettre les virus dedans ou pas, mais enfin voilà, qui comprend aussi les virus?
Oui, généralement, on parle des micro-organismes et de leurs virus. Hein.
D'accord.
Et si on reprend juste, pour reprendre l'arbre du vivant, vous avez trois grandes branches principales. Vous avez les bactéries, les archées, les eucaryotes. Et dans les eucaryotes, vous avez les animaux, les plantes et les champignons. Et une myriade de petites branches qui représentent les protistes. Et donc les protistes, qu'est-ce qu'ils font? On peut les utiliser comme modèles, hein, et d'ailleurs on les utilise comme modèles. Si on compare, par exemple, j'ai lu, il y a une thèse qui a été soutenue à l'université de Poitiers en 2017, où la doctorante avait comparé une amibe, Acanthaméba, avec un macrophage, c'est-à-dire une cellule de un globule blanc.
Mm-hmm.
Dans le sang. Et pourquoi elle a comparé les deux? C'est parce que tous les deux, à la fois Acanthaméba et le macrophage, se comportent de la même manière. Ils font une phagocytose, c'est-à-dire ils ingèrent, les macrophages sont là dans notre organisme pour avaler, pour phagocyter toutes les particules, que ce soit des particules vivantes comme des bactéries ou des restes de cellules.
Mm-hmm.
Et puis les acanthamébas dans la nature font la même chose. Généralement, ils s'intéressent plutôt aux bactéries ou aux spores de champignons, quelquefois à des petits protistes. Voilà. Et donc la doctorante, elle a comparé l'effet des amibes, donc des protistes, et des macrophages, donc qui sont des cellules humaines, hein, sur une klebsielle, c'est une bactérie, en plus une klebsielle qui produit une pneumonie, une klebsielle, elle a comparé sur un champignon dont je parle dans le bouquin, sur le peuple microbien, c'est Aspergillus fumigatus, Aspergillus, et également une sur des adénovirus, voilà. Et la différence, c'est, je vais prendre juste un exemple.
C'est-à-dire que du coup, on peut s'en inspirer. C'est-à-dire qu'on peut s'en inspirer pour lutter nous-mêmes contre eux, pour comprendre comment ça fonctionne et quelle stratégie adopter.
Voilà. Par exemple, à Cantameba s'attaque au clébtiel, alors que le macrophage, lui, va s'attaquer beaucoup moins au clébtiel. Par contre, si vous donnez des bactéries mortes à Cantameba, Acanthamoeba en voudra pas, alors que le macrophage va les phagocyter. Mm-hmm. Et comment on peut comprendre ça? Eh bien, c'est que Acanthamoeba ne va pas s'intéresser aux bactéries parce que ce sont des bactéries. Elle va s'intéresser aux bactéries parce qu'il y a un dialogue moléculaire.
Ah.
Et que lorsque les bactéries sont vivantes, elles produisent quelque chose, elles produisent des signaux. Et Acanthamoeba va aller vers ces signaux. Mais si les bactéries sont mortes, il n'y a plus de signaux et Acanthamoeba ne s'intéresse plus aux bactéries.
Donc, voilà. S'intéresser à ce dialogue, comment est-ce qu'on pourrait aussi dialoguer avec des bactéries vivantes? Il y aurait de quoi nous intéresser autour de la question jusqu'où nous entraînera ce fabuleux peuple, ce fabuleux monde microbien. C'est en s'inspirant, tiens donc, de l'expédition Tara Océan dont on vient de parler et des photos fabuleuses de micro-organismes planctoniques réalisées par Christian Sardet dans ses chroniques du plancton que de hip-hoppeurs italiens Doc Demi et Fabio Musta ont composé ce morceau Plancton Blues à écouter sans modération sur RFI.
Yeah. È una notte d'estate senza la luna in una profonda baia dove il mare si avventura in una insenatura tra due lembi di terra e una nera ripida altura su cui le luci di una mega metropoli mi mandano luci più chiare là sulla volta del cielo più nero. Qua giù son gialle le bianche fanno lassù capolino, ma poi tra queste e quelle tutta ad un tratto compare blu sotto il pelo del mare una terza luce pare un ectoplasma. Non è un fantasma. È la luciferina che accende luce marina in una costellazione che solo sembra minore che chiamano Plankton Boy. They're like a ghost in streams. What you gonna do if they run out? No life, no life, no life, no life down here. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che fa respirare me e te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che dà da mangiare a me e a te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che fa respirare me e te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che dà da mangiare a me e a te. Plankton, in greco vagabondi dell'oceano mondo. Organismi fatti d'acqua dove l'acqua abbonda e li trasporta dai fondali fino a sopra l'onda. Quanto spilli grandi e puoi vederli da una sonda in orbita spaziale sulla Terra. Quando fanno il loro bloom fanno qua il pianeta blu e giù l'effetto serra. Questi cosi che non vedi hanno invece tanti ruoli. Producono l'ossigeno la metà che tu respiri. Danno cibo ai pesci più piccoli e quindi a te che mangi queste pure quelli grandi e sopravvivi. Non oso immaginare la mia vita se sparissero. Questa terra tornerebbe pulviscolo. Non oso immaginare la mia vita se sparissero. Questa terra tornerebbe pulviscolo. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che fa respirare me e te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che dà da mangiare a me e a te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che fa respirare me e te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che dà da mangiare a me e a te.
La prima volta che ho visto le Plankton Blues de Doc Domi et Fabio Musta sur RFI autour de la question jusqu'où nous entraînera le peuple microbien que nous commençons tout juste à découvrir en compagnie de nos invités, la biologiste Catherine Jessu, auteure du magnifique ouvrage Les vies minuscules d'Edouard Chaton aux éditions du CNRS, en compagnie également de Laurent Palca, microbiologiste du Muséum, auteur entre autres du peuple microbien aux éditions Quae. Un peuple microbien omniprésent, capable aussi, toujours plus fort, de s'organiser en système, en communauté, en micro-société, c'est ce qu'on appelle les biofilms, invisibles à l'œil nu, alors qu'ils sont partout, sur le sol des forêts, jusque sur nos dents et au fond des rivières. Biofilms, la vie des microbes en société, c'est le titre de l'ouvrage de Romain Briandet, chercheur à l'INRAE, Gray, responsable de l'équipe Biofilm et Communauté spatialement organisée à l'Institut Michaelis à Jouy en Josas. Romain Briandet nous présente ces étranges, omniprésents et invisibles biofilms au micro de Marjorie Bertin. Accrochez-vous, car ils se glissent partout, pour le meilleur comme pour le pire.
Les biofilms, c'est le mode de vie principal des bactéries et de beaucoup de micro-organismes, puisque contrairement à ce qu'on pensait jusqu'alors, la majorité des bactéries ne vivent pas libres, planctoniques comme on dit, hein, dans leur environnement naturel, mais elles vivent associées à des surfaces, où elles vont se mettre à produire un espèce de mucus qui va les protéger, qui va leur permettre de construire des édifices en trois dimensions, au sein desquels elles vont être protégées de beaucoup des stress environnementaux qu'elles vont rencontrer dans leur environnement naturel.
Et alors, où est-ce qu'on les trouve ?
On en trouve partout, partout où on les recherche en tous les cas. Et donc, on va les retrouver sur tous les supports, au contact avec de l'eau, de l'humidité, donc dans la bouche par exemple, hein, ils recouvrent vos dents. On va en retrouver sur vos brosses à dents, sur la base de vos robinets, dans vos salles de bain, dans les petits jouets de bain qu'on utilise chez les enfants à l'extérieur. On va les retrouver par exemple sur le lit des rivières, hein. C'est ce qui rend les petits cailloux glissants dans les rivières, ça permet aux bactéries de résister à l'hydrodynamique des rivières. On va les retrouver également sur la coque des bateaux par exemple, où ils vont avoir un coût économique parce qu'ils font consommer plus de carburant pour les bateaux à moteur. Et puis écologique, puisque on a beaucoup utilisé des composés toxiques pour protéger la coque des bateaux de cette formation de biofilms, qui se sont avérés être une catastrophe écologique, hein, puisqu'on les retrouve dans les sédiments et qui sont extrêmement toxiques pour les autres organismes marins.
Ces biofilms, comment est-ce qu'elles s'organisent pour se constituer en communauté, pour se rassembler, pour changer de forme, Romain Briandet ?
Tout commence par un contact avec une surface entre une bactérie qui est suspendue dans un fluide, dans la mer, dans le sang, dans l'air. Et au contact de la surface, la bactérie va percevoir ce contact et bouleverser son expression génétique, avec en particulier l'activation de ce mucus qui va engluer les bactéries, les coller à la surface. Et au sein de ces micro-environnements, les bactéries vont échanger des informations entre elles. Elles ont développé des systèmes assez fins de communication qui passent par différents médiateurs. Le plus classique, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de quorum sensing, où chaque bactérie d'une espèce va produire une molécule dans le milieu extérieur qu'elle est capable de produire, mais également de détecter. Et donc, ça va lui permettre de détecter la quantité de bactéries sœurs à proximité de son site d'adhésion. Mais elle a également développé un autre langage chimique qui lui permet également de détecter la présence d'autres types de micro-organismes dans son environnement immédiat. Et très récemment, on a également découvert que les bactéries sont capables de communication électrique pour certaines d'entre elles.
Et est-ce que les biofilms peuvent avoir un rôle protecteur ?
Tout à fait. Sur les aliments, certains biofilms peuvent couvrir certains aliments comme les fromages, par exemple. La flore de surface d'un fromage peut être vue comme un biofilm. Il y a d'autres types d'aliments fermentés en Asie, par exemple les natto, qui sont des haricots qui sont fermentés par des biofilms de Bacillus subtilis, qui ont des effets santé, hein, qu'on assimile à des probiotiques. Et de plus en plus, on commence à utiliser des solutions, des cultures protectrices pour protéger des surfaces de contaminants ou d'autres effets indésirables. Et par exemple, dans les bâtiments d'élevage aujourd'hui, on utilise de plus en plus des biofilms protecteurs qu'on va installer à la surface des bâtiments d'élevage avant l'entrée des animaux, pour les protéger en alternative à des solutions chimiques ou l'application d'antibiotiques systématiques telles que c'était réalisé dans le passé.
Incroyable biofilm, les microbes, quand les microbes s'organisent en société. Romain Briandet était au micro de Marjorie Bertin. Vous nous les faites découvrir aussi, Laurent Palca, dans votre ouvrage Le peuple microbien, ces biofilms, c'est proprement insensé, ils communiquent entre eux en plus.
Oui, mais les biofilms qui protègent les bactéries, mais pas que les bactéries, c'est intéressant parce que on a des flagellés qui sont bactérivores et qui viennent se coller. Ils ont deux flagelles, ils ont un court et un long. Et le long permet aux flagellés de se fixer sur une surface, en particulier sur le biofilm. Mmh. Et avec le court, c'est un flagelle court et trapu, épais. Et avec ce flagelle court, il va se baisser jusqu'à la surface du biofilm et arracher les bactéries qui se trouvent à la surface. Seulement, le flagellé ne pourra pas pénétrer à l'intérieur du biofilm parce que c'est un milieu visqueux. Le flagellé est capable de se déplacer dans un milieu liquide, mais dès lors que c'est visqueux, il ne peut plus se mouvoir. Alors,
C'est une protection, du coup, vraiment, ces biofilms.
Oui, c'est une protection, mais pour les amibes, par exemple pour Acanthamoeba, dont je parlais tout à l'heure, c'est possible. les amibes peuvent pénétrer à l'intérieur du biofilm. Et à l'intérieur du biofilm, ils vont s'attaquer, évidemment, comme la doctorante l'avait montré dans son expérience, dans sa thèse, l'amibe va s'attaquer aux bactéries. Mais le problème, c'est qu'avec Acanthamoeba, on a une amibe qui est dite permissive. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup d'espèces de bactéries, eh bien, l'amibe va les phagocyter, c'est-à-dire va les internaliser dans sa cellule, mais les bactéries vont résister à la phagocytose et vont résister à l'arrivée des enzymes de la digestion. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les bactéries qui se trouvent dans des vacuoles à l'intérieur de l'amibe, si elles ont, mais elles ont des nutriments, elles vont continuer à se développer à l'intérieur de l'amibe.
Incroyable, ces stratégies élaborées par ces bactéries de biofilm. Enfin, là-dedans, on se dit que c'est un vrai laboratoire. On a longtemps vu ce peuple microbien comme uniquement pathogène. En fait, c'est un laboratoire de possibilités du vivant, de stratégies, d'évolution, de formes d'intelligence, on pourrait presque dire, Catherine Jessy. En tout cas, d'intelligence qui peuvent nous inspirer, clairement.
Oui, forme d'intelligence dans le sens où, enfin, tout dépend de la définition de l'intelligence, mais si vous prenez intelligence comme une adaptation comportementale à l'échelle d'un individu à une variation de l'environnement, les protistes et les microbes sont effectivement intelligents. Et pour en revenir à ces questions qu'on vient d'aborder, effectivement, Édouard Chaton avait déjà mis le doigt sur ces communautés cellulaires avec son épouse, Madame Chaton. Il a étudié assez longuement à Strasbourg la sexualité des ciliés, d'un protiste cilié.
Donc ce sont vraiment des
Donc sexualité, ça veut dire deux individus s'échangent du matériel génétique et vont produire des nouveaux individus qui sont donc génétiquement non identiques à l'individu parental. Donc il s'était intéressé à ça. À l'époque, on disait que c'était conditionné uniquement par la génétique. Voilà, il y avait une horloge interne qui conditionnait ces échanges de matériel génétique, et il a montré que pas du tout, en faisant des cultures, que c'était l'influence de bactéries qui déclenchait la sexualité du cilié, qui est une réponse au stress, parce que du coup on remanie un peu son génome et on va être plus capable de s'adapter.
Oui, mais c'est quand même complètement fou, c'est-à-dire que dans ce monde invisible, microscopique, il se passe des choses complètement insensées.
C'est des sociétés.
Ce sont des sociétés.
Extrêmement élaborées, avec des échanges, des compétitions, des aides et des mutualisations, donc un tas de communications qui vont au-delà du fait du biofilm qui est attaché, effectivement, mais même en suspension, on est avec des communautés et chacun ne va jamais pouvoir vivre sans les autres, en fait.
Et ça, finalement, c'est aussi, on y reviendra, hein, mais Laurent Palca, c'est aussi une des leçons de ce peuple microbien invisible à l'œil nu, c'est cette forme d'interdépendance et et finalement, on a tout intérêt, grâce aux outils qu'on a aujourd'hui, à les étudier de plus en plus près. On découvre d'autres stratégies, d'autres manières d'être ensemble, de vivre, mais c'est toujours dans l'échange, la communication, à tous les niveaux et à toutes les échelles, que ce soit, Laurent Palca.
Oui, bien sûr. Et juste pour terminer par rapport à ce que je disais tout à l'heure, Acanthamoeba va ingérer des bactéries, mais Acanthamoeba peut ingérer des bactéries qui vont résister dans son cytoplasme. Il va ingérer des bactéries pathogènes. Il peut ingérer des légionella. Acanthamoeba peut ingérer des klebsiels. Et on revient à l'expérience de la doctorante de Poitiers. Hein. C'est exactement ça. Les légionelles et même les klebsiels peuvent aussi, selon les cas, persister dans les macrophages. Donc, étudier...
Ce qui nous explique pourquoi nous, on a tant de mal à lutter contre ces bactéries-là, voilà, et contre ces microbes-là.
Voilà. Et alors, la nature a quand même trouvé une solution. Il y a une autre amibe qui est capable également de pénétrer à l'intérieur du biofilm. Elle s'appelle Villa Hertzia. Eh bien, cette amibe est capable, elle, elle n'est pas permissive du tout. Mm-hmm. Donc, elle va s'attaquer aux légionelles et elle va les digérer. Et elle va faire mieux. Elle va s'attaquer aux acanthaméba qui contiennent les légionelles et va digérer les acanthaméba qui sont contaminés par les légionelles.
Finalement, ce peuple microbien est capable de toutes les stratégies et nous fournira peut-être les thérapies, les médicaments pour nous, pour plus tard. Autour de la question, jusqu'où nous entraînera le peuple microbien? Allez, on continue de s'interroger ensemble sur toutes ces vies minuscules. À l'écoute cette fois-ci de Minimum Brain Size, titre de circonstance, signé King Gizzard and the Lizard Wizard sur RFI. Sur RFI, mais pour un effet maximum autour de la question jusqu'où nous entraînera le peuple microbien, ce fantastique, magnifique, stratégique, cette microbiodiversité présente partout, à toutes les échelles, dans tous les milieux et jusqu'à l'intérieur de notre corps humain. Ça, c'est le fameux microbiome, microbiote qui nous compose, comme tous les autres êtres vivants. Et c'est précisément sur cette communauté de microbes que nous interroge, que vous interroge Laurent Palca. Et Catherine Jessu, ma consoeur de Cerveau et Psycho, Cécile Estienne.
Les études sur les microbiotes se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup développées ces dernières années. On parle de notre microbiote intestinal, mais aussi des différents autres microbiotes, celui que nous avons sur la peau, on en a même un dans les poumons, enfin, à différents endroits. On s'aperçoit que c'est lié à beaucoup de pathologies, mais est-ce qu'aujourd'hui on a, ou est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir des pistes de thérapie grâce à ça? Parce que je pense qu'on a l'impression qu'on comprend de mieux en mieux ce qui se passe. Est-ce que pour autant, ça nous donne des possibilités de soigner quand il y a des dysfonctionnements?
Qui veut, qui peut essayer de répondre, Laurent Palca, peut-être, oui, à cette question de Cécile Estienne?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Il faut considérer que la définition du microbiote, c'est ça prend en compte les bons et les méchants.
Les bons et les méchants microbes, ouais, bien sûr.
Voilà, c'est un bon et les méchants. C'est un équilibre. Hein. Et dans notre organisme, la question, c'est qu'il faut éviter à tout prix les déséquilibres. C'est-à-dire que si vous déséquilibrez un microbiote, que ça surtout le microbiote intestinal, eh bien ça peut provoquer des pathologies. Et une possibilité pour alors une pathologie qui survient souvent, c'est qu'on Tout le monde le sait, hein, quand on prend des antibiotiques.
Oui, bien sûr. Dans ces cas-là, on tue toutes ces vies minuscules qui vivent en nous et avec nous.
Voilà, et on déséquilibre le microbiote et ça fait ce qu'on appelle une dysbiose. Et ça donne souvent une dysbiose avec une bactérie pathogène qui fait partie du microbiote qui s'appelle Clostridium difficile. Et ça, Clostridium difficile, ça rend malade, ça fait des diarrhées, des problèmes digestifs qu'il faut à tout prix soigner.
En fait, c'est quand une des bactéries prend le dessus sur toutes les autres.
C'est ça, exactement.
Maintenant, on a parfaitement compris ça. Est-ce que ça pourrait donner, vous en avez cité plusieurs, hein, finalement, Laurent Palka, peut-être des pistes de thérapie aussi qu'on peut comprendre et se servir finalement des différentes stratégies encore inconnues et encore à découvrir du peuple microbien. Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir, parce qu'on va arriver en fin d'émission, Laurent Palka, qu'est-ce que vous aimeriez il y a tout à découvrir, on l'a bien compris, hein, dans ce peuple et dans ce monde microbien. Qu'est-ce qui vous tiendrait à cœur? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous étudiez?
Oui, alors moi, ce que j'étudie en ce moment, c'est pas tout à fait des protistes, puisque je travaille sur des champignons unicellulaires. Donc, certains font entrer les champignons unicellulaires dans la catégorie des protistes. Mm-hmm. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces champignons unicellulaires s'associent aux racines des végétaux, en particulier des herbacées, mm-hmm. pour leur permettre de se développer, pas n'importe où, pour se développer sur les toits végétalisés dans les grandes villes. Mmh. En fait, au CESCO, il y a, moi, dans mon équipe, je travaille dans une équipe d'écologie urbaine, mmh. et ce qui nous intéresse, c'est de faire rentrer de la biodiversité dans les villes denses pour que la biodiversité crée des habitats pour accueillir une faune ou une micro ou un microbiote ou des micro-organismes. Et on commence toujours par les plantes et en particulier les herbacées. Voilà, donc moi je travaille sur les toits de Paris et j'essaie de comprendre comment les endomycorhizes, c'est des champignons qui pénètrent à l'intérieur des racines, comment ces champignons vont permettre vont apporter de l'eau, vont apporter des éléments nutritifs, vont protéger la plante contre des agresseurs, vont filtrer les polluants, et tout ça au bénéfice de la plante pour que la plante, et en l'occurrence les herbacées, puissent se développer de façon la plus optimale sur les toits végétalisés rendre des services écosystémiques.
Génial, donc vous faites rentrer en ville ce peuple microbien dont on se méfiait beaucoup, hein, Laurent Palka, et donc qu'il faudrait apprendre à découvrir, à connaître. Il y a tout à découvrir, il y a tout à rechercher. Catherine Jessu, alors vous, c'est Édouard Chaton et ses vies minuscules qui vous ont complètement fasciné. Vous n'êtes pas microbiologiste, sur quoi menez-vous, vous, vos recherches?
Donc moi, je travaille sur la mécanique de la division des cellules. Donc voilà, c'est très loin, hein, avec un modèle qui est l'ovocyte, hein, qui est la cellule reproductrice femelle et qui a un mode de division très particulier avant la fécondation. Et donc comment ça marche, comment ça se passe, comment c'est régulé.
Ça paraît très loin, mais en même temps, c'est aussi comprendre les stratégies du vivant, c'est
absolument
ça,
hein. Et surtout, Édouard Chaton et bien d'autres ont étudié la division cellulaire chez les unicellulaires, et qui a été une source d'enrichissement extraordinaire pour comprendre comment ça se passe chez les êtres multicellulaires comme notre organisme.
D'où l'intérêt, hein, de faire des liens entre les deux et de continuer à rechercher cette microbiodiversité.
Mais justement, s'il y a un mot de la fin, ce qui me paraît tout à fait fascinant, c'est l'énormité de l'inconnu en termes de microbiologie et de microbes. Et ce qui est vraiment époustouflant, c'est tout ce qui reste à découvrir, non pas seulement pour faire juste un catalogue des milliers et peut-être millions d'espèces que nous ne connaissons pas, mais parce qu'elles ont envahi des endroits de la planète que nous croyons incompatible avec la vie. Or, il y a de la vie là, c'est-à-dire qu'il y a de la vie qui a des formes insoupçonnées que nous ne connaissons pas du tout.
Et peut-être même jusque dans l'espace, à suivre, donc un chantier énorme. Merci infiniment à tous les deux pour ce voyage dans l'invisible et dans l'essentiel. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs, donc Le peuple microbien, Laurent Palka, paru aux éditions Quoi et à lire absolument, et Les vies minuscules d'Édouard Chaton aux éditions du CNRS, Catherine Jessu, ouvrage magnifique entre art et science qui a de quoi nous faire rêver, on en a tant besoin aujourd'hui. Merci à vous deux.
Merci Caroline.
Merci. autour de la question. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain autour de la question. Comment la science infuse et se diffuse? Il y aura plein de magazines à gagner avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique. Merci à Hugo Violas de l'autre côté de la vitre pour la réalisation. Caroline Fillette en coulisses et le journal. C'est tout de suite, chers amis auditeurs.